Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 9e épisode.
La maternité, c'est la grande affaire des femmes. La mère devrait être notre religion, disait Zola. Sur la maternité, il y a de très nombreux travaux. Ceux de Jackie Gélis, par exemple, mais surtout ceux d'Yvonne Knibeler, qui est la grande historienne de la maternité. Son histoire des mères du Moyen-Âge à nos jours, avec Catherine Fouquet, est un classique, ainsi que la révolution maternelle depuis 1945. Et il existe aujourd'hui une société pour l'histoire de la naissance que préside Yvonne Knibeler. Alors la maternité, c'est une réalité multiforme, dont il nous faut dégager quelques traits historiques majeurs. Pour les femmes, d'abord, c'est la source de l'identité, le fondement véritable de leur différence. Lucie Rigaraille ou Louisa Mouraro, dans l'ordre symbolique de la mère, ont insisté là-dessus. La femme engendre un fils, mais aussi une femme. Et par conséquent, elle produit non seulement de l'autre, mais du même. Et Mouraro parle du bonheur extraordinaire qu'il y a à être né du même sexe que ma mère. C'est aussi, pour les femmes, un moment essentiel de leur vie, bien au-delà de la naissance, car la maternité dure toute la vie. Pour les enfants, c'est le moment essentiel, naissance, nourriture, première socialisation. Pour la société, qui n'a cessé de valoriser l'amour maternel, Elisabeth Badinter a travaillé là-dessus, et la figure de la mère, tant au niveau pratique qu'au niveau symbolique. Parce que la fonction maternelle est un pilier de la société et de la force des États, il y a une socialisation de la maternité. Le corps de la mère est investi par la politique. Le contrôle des naissances est un enjeu majeur. Premier problème, la conception. Avoir ou ne pas avoir des enfants. Ce qui était une fatalité, autrefois, est devenu un choix. Et désormais, un choix des femmes aussi, et peut-être surtout. Et là, il y a une véritable révolution dans la condition des femmes et dans les rapports entre les sexes. Comment s'est faite la régulation des naissances qui existe depuis bien longtemps? Comment a-t-elle évolué dans le temps? Eh bien, la limitation volontaire des naissances apparaît dans les sociétés occidentales à peu près vers le XVIIe siècle. Et la France a été, semble-t-il, le premier pays à le faire dès la fin du XVIIe siècle. Le démographe Moreau disait « On trompe la nature jusque dans les campagnes ». Et le père Féline, un jésuite, a écrit, à la fin du XVIIIe siècle, le catéchisme des gens mariés, où il donne des conseils pour la conception. Quels moyens employait-on pour limiter les naissances? J'énumère le mariage tardif, parce que il réduisait la période féconde du couple. L'abstinence, très fréquent. Le coït interrompu, réprouvé par l'Église qui l'appelle le péché donnant, mais très largement pratiqué, à la fois par les hommes qui font attention, comme on disait, et même par les femmes qui essayaient de se soustraire à l'étreinte quand elles la supposaient féconde. Ceci dit, les naissances non désirées étaient les plus fréquentes. Les familles étaient très nombreuses, et si elles ne demeuraient pas nombreuses toujours, c'est qu'elles étaient ravagées par une très forte mortalité infantile, laquelle était considérée comme une fatalité, voire une soupape de sûreté. Le bébé n'est pas encore une personne, ce qui ne veut pas dire qu'une maman du Moyen-Âge ou de l'époque moderne ne souffre pas de sa mort. Nous savons bien que ce n'est pas vrai. Ceci dit, la prise de conscience du baby, à l'anglaise, du bébé, se précise et se généralise à partir du XVIIIe siècle. Et cela va rendre de plus en plus difficile l'infanticide. De même que, plus proche de nous, la prise de conscience du fœtus va rendre de plus en plus difficile l'avortement. Ce que raconte Boltanski dans un livre récent qui s'appelle « La condition fœtale ». Infanticide et avortement étaient assez largement pratiqués dans les sociétés d'autrefois. L'infanticide était une vieille pratique rurale, c'était quand même un peu plus compliqué en ville. Et au XIXe siècle, en dépit d'une réprobation croissante, l'infanticide persiste. Une historienne, Annick Tillier, a raconté cela dans un très beau livre qui s'appelle « Des criminels au village, femmes infanticides en Bretagne ». Elle a étudié plusieurs centaines de dossiers de procès d'assises pour infanticide dans les départements bretons du XIXe siècle. La plupart du temps, il s'agit de servantes de ferme, jeunes, seules, séduite par le patron ou par un valet de ferme et qui, acculé à la honte, se débarrasse du nouveau-né qu'elles enterrent ou qu'elles noient comme un petit chat. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la dissimulation de la grossesse jusqu'au dernier moment, comme si personne ne s'en apercevait. Et il faut faire la part des tabliers, des jupes larges avec lesquelles les femmes s'habillaient à cette époque. Et puis, l'accouchement est très bref. La jeune femme disparaît quelques heures, accouche, noie le nouveau-né et revient au travail, le soir même quelquefois, ou alors le lendemain matin. Ces jeunes femmes ensuite, en l'occurrence, puisque ce sont des procès d'assises, eh bien, sont traduites devant les tribunaux. Et dans une extraordinaire solitude, les pères se dérobent et on ne les poursuit jamais. Et l'infanticide apparaît vraiment comme une affaire de femme. Mais on observe que les juges, et même les jurys d'assises, sont relativement indulgents. Il y a eu quand même des femmes qui ont été condamnées à mort pour infanticide. On a des exemples assez nombreux au 19e. Mais plus le temps passe, plus on hésite. Il y a comme une espèce de gêne de ces hommes devant l'impunité des séducteurs qui n'apparaissent évidemment jamais devant le tribunal. Et puis, de manière générale, l'infanticide va reculer tout simplement parce que on prend conscience du bébé et du nouveau-né. Le recours à l'avortement était mieux toléré peut-être et en tout cas largement pratiqué. Dans des conditions sanitaires souvent, la plupart du temps, déplorable, lié à la clandestinité, et cela provoquait la mort de nombreuses mères. C'était pratiqué, au XIXe siècle en tout cas, non seulement par des femmes seules, mais aussi par des mères de famille multipares, c'est-à-dire qui avaient déjà plusieurs enfants, et qui voyaient là le seul moyen de limiter la taille d'une famille qu'elles estimaient suffisamment nombreuse. Et cette banalisation relative de l'avortement a été dénoncée par les médecins démographes, par exemple le docteur Bertillon, qui publie au début du XXe siècle de la dépopulation de la France, et le titre est très éloquent, il dit, Bertillon, la France se dépeuple, c'est à cause de la dénatalité et c'est à cause de l'avortement. Et il faut lutter contre l'avortement. Et à ce moment-là, on voit l'État qui s'engage, qui punit, qui envoie devant les tribunaux les avorteurs, les sages-femmes et les médecins marrons. Et après la guerre 14-18, il y aura des lois votées par le Parlement, la loi de 1920, la loi de 1923, qui vont faire de l'avortement, pas un crime, mais au contraire, quelque chose qui est traduit devant les tribunaux correctionnels de façon à ce que les juges puissent punir plus sévèrement. Et on a vécu sous ce régime-là jusqu'à la loi Veil de 1975 nous aurons l'occasion de revoir. Alors, pourquoi est-ce que le contrôle des naissances, qui nous paraît aujourd'hui la raison, a-t-il été si difficile à mettre en place ? À cause de toutes sortes de réserves, à cause de l'État, je viens de le dire, à cause de l'Église. L'Église est résolument hostile à tout ce qui n'est pas un moyen naturel de contraception. À cause du marxisme. Le marxisme opposait Marx à Malthus. Il fallait avoir autant d'enfants, les familles pauvres devaient avoir autant d'enfants qu'elles pouvaient en avoir. Et c'était la bourgeoisie qui restreignait les naissances. Et puis les féministes elles-mêmes hésitaient. Et ça n'a pas été si facile de voir se développer le birth control, le planning familial. Et pourtant, ils se sont développés avec beaucoup d'intensité. Et le rôle du planning familial, dans les années d'après la Deuxième Guerre mondiale, ce rôle a été très important dans l'avènement des moyens de contraception, dont la pilule en 1967 et puis la loi Veil de 1975. Ça, c'est tout le mouvement des femmes des années 70 qui est derrière l'avènement de cette contraception aux mains des femmes, en quelque sorte. Et on ne saurait assez insister sur la modernité de cela, un enfant si je veux, quand je veux, comme je veux, la conquête de la liberté de la contraception et du droit à l'avortement, ça n'avait rien d'évident et c'est au cœur d'un véritable habeas corpus pour les femmes. Voilà par conséquent pour le contrôle des naissances. Mais maintenant, la naissance, cette naissance a lieu et elle est toute une histoire, cette naissance. D'abord, l'accouchement. L'accouchement qui a été pendant des siècles la principale cause de mortalité des femmes. Prenez par exemple l'histoire de la césarienne. La césarienne, c'est ce que l'on fait quand l'enfant a une mauvaise position. Il va sortir mal. Eh bien, en Italie, où on a commencé à développer la césarienne dès le XVIIIe siècle, on choisit de favoriser l'enfant et non la mère. On veut sauver l'enfant parce que c'est un futur baptisé, un futur chrétien. Et puis, ma foi, la mère, on n'y fait pas très attention. Au fond, les grands progrès datent du XVIIIe siècle avec à la fois le rôle des médecins et le rôle des sages-femmes. Louise Bourgeois, une sage-femme très moderne, essayait de former les sages-femmes avec des mannequins pour bien leur apprendre la position du bébé et arriver à faire des avortements qui soient tout à fait sains pour les mères, en quelque sorte, qui ne soient pas cause de mortalité. Donc, il y a une médicalisation croissante de la naissance, avec des aspects, j'allais dire, positifs. On sauve des enfants, on sauve des femmes, et sinon négatifs, du moins ambivalents. Il y a un recul des femmes autour de cet acte très féminin qu'était la naissance et on voit arriver de plus en plus d'hommes qui disent c'est nous qui savons faire. Dans la naissance, il y a aussi la douleur. Eh bien la douleur, tu accoucheras dans la douleur, disait la Bible. Donc la douleur est tout à fait tolérée. Et il a fallu tout un mouvement dans les années 50 pour que l'on lutte par l'accouchement sans douleur, qui n'était pas d'ailleurs toujours tellement sans douleur que ça, contre la douleur, avec l'idée que c'était pas normal de souffrir. De ce point de vue-là, l'histoire de la clinique des Bleuets dans les années 50 est, de ce point de vue, tout à fait intéressante. Enfin, dernière remarque, l'accouchement médicalisé cesse de se faire à domicile pour se faire de plus en plus en clinique et à l'hôpital, dans des maternités qui d'abord étaient pour les femmes pauvres, mais qui très rapidement au XXe siècle sont devenues, au contraire, des lieux pour les femmes aisées, celles qui justement voulaient que l'acte médical soit très sûr, c'est-à-dire avec des médecins. Mais on voit à travers tout ça une naissance qui se médicalise. Après la naissance, l'élevage des bébés. Et cet élevage des bébés, ça a été d'abord la nourriture, l'allaitement. Rousseau, tout le monde le sait, était pour l'allaitement au sein. Il en a fait véritablement une propagande intense. Mais au XIXe siècle, beaucoup de femmes ne souhaitaient pas du tout cela parce qu'elles avaient une vie mondaine ou commerçante active. Et il y a eu appel à des nourrices. Il y avait deux types de nourrices. Des nourrices sur lieu, qu'on faisait venir dans la maison, dans la famille, et des nourrices à emporter. Dans ce cas-là, on emportait les bébés à la campagne pour les confier à des nourrices. C'était la cause d'extraordinaire mortalité des enfants. Si bien que on a lutté contre cela et le système des nourrices a été progressivement supprimé. Finalement, ce qui a triomphé du mauvais système des nourrices, ça a été le biberon. Le biberon pasteurisé, Vive Pasteur en tout à fait en l'occurrence, eh bien c'est cela qui a permis d'élever les enfants au biberon, pas au sein, mais dans toute sécurité. Le trait historique aussi très important et majeur, c'est l'amour pour l'enfant, c'est le désir d'enfant. Et on pourrait dire que le désir d'enfant devient d'autant plus fort que le contrôle de naissance est mieux assuré. Enfant rare, ça devient aussi enfant plus désiré. Et on peut dire que le désir d'enfant est un des traits majeurs de notre époque, au point que la stérilité, qu'on attribue maintenant plus du tout seulement aux femmes, les hommes aussi sont cause de stérilité et ils l'acceptent désormais, eh bien, on lutte par la stérilité, par les fameuses PMA, c'est-à-dire les procréation médicalement assistée et qui font que le corps des femmes devient d'ailleurs très souvent un véritable laboratoire de la naissance. Pourquoi c'est important, c'est ce désir de l'enfant? Parce que dans un monde dont on a pris conscience de la fin du monde, eh bien l'enfant est porteur d'espoir, il est porteur de la transmission de la famille, il est porteur aussi de la transmission des sociétés. Et du coup, la maternité, c'est pas seulement la maternité, mais c'est justement la natalité, comme le dit la philosophe Hannah Arendt, qui a beaucoup réfléchi sur ce problème-là. Et comme elle le dit, au fond, la grande nouvelle, c'est toujours la même, c'est-à-dire un enfant est né.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.